BFM Bourse, on refait la séance.
Avec nos deux invités ce soir, ils viennent de nous rejoindre. Mathieu Destouche pour Arkea Asset Management. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
Et Franck Morel, président de Zone Bourse. Bonsoir Franck. Ravi aussi de vous retrouver. On va parler bien sûr de valeurs en Europe, mais d'abord SpaceX, quand même un petit coup de SpaceX. Franck, ce titre SpaceX donc signe une première historique. Jamais on n'avait vu ça encore sur l'histoire, dans l'histoire des marchés, mais même dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, SpaceX recule en bourse. On n'avait jamais vu ça de mémoire d'homme. Moins 4% cet après-midi après avoir pris 50% évidemment en trois séances. Bon, c'est une baisse. Est-ce un point d'entrée pour les investisseurs, Franck?
Sincèrement, je suis bien incapable de vous répondre puisqu'il n'y a plus aucune cohérence en termes de valorisation. On peut penser que les acheteurs frénétiques ont pu se servir au cours des trois premières séances de bourse. Donc peut-être qu'il va y avoir maintenant plutôt des prises de bénéfices. Après, valoriser une société de cette manière, ça repose, j'ai envie de dire, que sur un homme. En l'occurrence, Elon Musk qui manifestement s'est engagé autour de lui des capitaux incroyablement important et sur des projets à des horizons de temps extrêmement lointains et avec des espoirs manifestement énormes de retour sur investissement pour que les gens soient capables de payer une société ce prix-là. Aujourd'hui, Starlink vaut plus cher que Amazon. Elle vaut 75 fois son chiffre d'affaires qu'elle devrait faire si tout va bien l'année prochaine, tout en perdant cette année 5 milliards. Il faut savoir que l'essentiel des dépenses aujourd'hui de SpaceX, c'est pour le moteur d'intelligence artificielle qui est derrière xAI, donc Twitter, Grok, voilà. Donc en gros, on finance même plus les navettes spatiales, mais on est surtout en train de financer de l'IA, qui pour le moment n'a pas été les modèles de X. Sont pas ceux qui ont eu les plus grands succès. Hein. On connaît plus OpenAI, Gemini ou Claude. Donc il arrive à rassembler, c'est certain, et il n'y a plus de cohérence. Donc, est-ce qu'il faut acheter? Peut-être sur repli, mais il faudra qu'il y ait un repli très important, en tout cas pour que nous, on s'intéresse au titre.
C'est tellement
là,
français.
on laisse faire le marché et l'analyse technique.
C'est tellement français, à ce pessimisme autour de SpaceX. Regardez, plus 50 en 3 jours. Et alors, c'est sacrément bien organisé hein, pour qu'on ait un tapis roulant haussier. Je ne dis pas que ça ne va pas baisser, hein, mais l'offre, d'abord, était limitée, très rare. Les Européens, d'ailleurs, ont été très peu servis sur l'introduction en bourse. Donc, j'imagine que plein d'Européens affamés voudront participer et embarquer dans le titre SpaceX. Il y a des options aujourd'hui qui arrivent sur le marché qui nourrissent la hausse. Il y aura bientôt les fonds indiciels qui vont devoir intégrer SpaceX. Enfin, ça fait quand même une marche triomphale, on verra à la fin, bien sûr, mais un tapis roulant haussier là, qu'a organisé Elon Musk. C'est plutôt bien fait, en l'occurrence, Mathieu.
Ah oui, si l'objectif, c'était effectivement de prendre 50% en 3 jours, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Hein. Émettre peu de flottants, restreindre un petit peu l'accès à certains investisseurs.
Organiser la rareté.
C'est ce que Musk fait avec toutes ces sociétés.
Reuters dit tout est organisé pour qu'un tsunami acheteur sur SpaceX se transforme en courant permanent haussier. En courant haussier permanent, voilà.
Permanent, il faut définir.
Alors voilà, jusqu'à quand? Trois jours, c'est pas très long.
Non, c'est pas beaucoup. Après, on verra. Là, comme disait mon collègue, entre guillemets, tous les acheteurs qui n'ont pas pu acheter à l'IPO, ils se sont rués sur l'action ces trois derniers jours. Il va y avoir un petit peu de flux d'ETF à venir. Je pense que derrière, ça va s'équilibrer. On va commencer aussi à avoir des vendeurs. Et effectivement, oui. Il y avait quelques restrictions de vente avec quelques lock-up. Quand ça va se déboucler, on va trouver un prix d'équilibre.
C'est ça, il y a 17 lock-up à venir, donc 17 fenêtres de vente pour ceux qui sont déjà au capital de SpaceX. Il y aura des fenêtres des jours où ils pourront commencer à vendre leurs actions. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ce qui n'empêche pas le titre de reculer. D'ailleurs, c'est bizarre, ça recule alors qu'on n'est pas encore dans les lock-up.
Oui, peut-être que c'est les gens qui ont acheté après l'IPO n'avaient pas ces lock-up-là et revendent le jour d'après.
Franck, là-dessus, on est à moins 4 alors qu'on n'est pas encore dans les fenêtres de vente pour ceux qui étaient déjà au capital.
Non, mais vous avez tout dit, Guillaume. L'action a pris 50% en 3 jours. Ça fait 1300 milliards de créés. La société SpaceX, en l'occurrence, c'est la même qu'il y a 3 jours. Et l'ampleur des capitaux créés en l'espace de 3 jours par rapport à un projet qui est certes super, hein, Starlink, je ne suis pas du tout... en fait, la question, c'est juste de savoir combien ça vaut, un projet comme celui-ci. Mais manifestement, ça vaut ce que les gens sont prêts à payer, et ils sont prêts à payer extrêmement cher, et finalement, tout ça repose, à mon sens, essentiellement sur une personne, en l'occurrence Elon Musk, quand bien même ses équipes sont fantastiques. Demain, Elon Musk a des soucis de santé. Je pense que l'intégralité de son écosystème des Tesla ou des SpaceX vont se prendre une baigne comme jamais. Donc, est-ce qu'il faut être investisseur? Est-ce que le projet Starlink a du potentiel? C'est certain. Est-ce qu'il faut être investisseur à ses prix? J'ai envie de dire que si vraiment on devait s'y intéresser, autant s'y intéresser le jour où elle aura décroché dans des proportions relativement importantes, puisque là, on est décorrélé de tout.
Oui, oui. Lundi, c'est Boulet Bertrez qu'on suit régulièrement sur les réseaux et il nous suit aussi. Lundi, les particuliers américains ont acheté SpaceX, mais alors comme jamais. 73% des actions qu'ont acheté les particuliers américains, 73%. Les trois quarts, c'était SpaceX à lui tout seul. C'est quand même des chiffres et des ampleurs qu'on n'avait jamais vues par le passé. Bon, on va laisser SpaceX de côté, on va le laisser reculer gentiment de 4%. C'est rien hein, par rapport à la hausse des trois derniers jours. Et on aura l'occasion d'y revenir 1000 fois à SpaceX. Il y a une pépite comme ça sur le marché que vous suivez, une valeur que vous aimez bien, Mathieu, que vous aimeriez aujourd'hui mettre en avant pour nos auditeurs?
Oui, c'est une valeur dont j'avais déjà parlé, qui s'appelle AutoOne. Pour replacer le contexte, c'était une société qui avait été un petit peu pénalisée en début d'année par des craintes liées à l'IA. Et puis, les investisseurs n'avaient pas vraiment apprécié qu'ils privilégient la croissance au détriment un petit peu des marges sur leur branche retail et la marque AutoHero. Et en fait, demain, ils tiennent leur Capital Market Day. Ils ont divulgué une nouvelle guidance. Donc, ils ont confirmé leur guidance pour 2026. Et ils ont aussi affiché des objectifs à moyen long terme qui ont plutôt rassuré les investisseurs. Et donc, le titre s'adjugeait à peu près 8%, je crois. J'ai pas regardé à la clôture, mais c'était à peu près ça. Donc ça fait un beau rallye ces deux derniers mois. Ça reste en baisse de 10 points à peu près, de 10% depuis le début de l'année. Nous, on pense que c'est une société qu'on peut accompagner encore un petit peu.
Oui, pendant ce temps, la tech en Europe, Vivatech, le salon qui a démarré, le salon Vivatech, dans une ambiance souveraineté. Hein, vraiment, on sent que la France, les Européens sont en train de prendre conscience de leur fragilité, de leur dépendance en matière numérique, en matière d'intelligence artificielle. La DGSI, on en parlait hier, rompt son contrat avec Palantir. Lighton annonce multiplier les contrats avec des établissements publics français qui souhaitent moins dépendre de l'IA américaine. Tout ça, c'est des bonnes nouvelles. Est-ce que vous pensez que c'est... Allez, Franck, ces valeurs souveraineté ont encore beaucoup de potentiel ou on y est là? On pourra pas aller beaucoup plus? Est-ce qu'il y a des valeurs souveraineté dont vous trouvez qu'elles gardent un énorme potentiel à venir ici en Europe ou en France?
Oui, la souveraineté, c'est clairement une thématique durable dans laquelle on investit et on continue d'investir et dans laquelle je pense qu'il faut être investi. On n'a pas le choix. Ce serait bien d'ailleurs qu'on ait un véritable sursaut européen et parce qu'on a vraiment l'impression qu'on se fait promener sur à peu près tous les sujets, toutes les nations qui nous entourent. Donc, nous, on a dans nos portefeuilles, on a évidemment de la défense, donc on va avoir du Dassault Aviation, on pourrait avoir du Thales, on n'en a pas. On a, si on veut être un peu plus original, prendre un peu plus de risques sur la thématique de la souveraineté, on peut tout à fait s'intéresser à Renault. Renault qui, comme tous les constructeurs automobiles, ne vaut plus rien en bourse. La valorisation, c'est peut-être la plus faible qui soit sur le marché européen. Mais Renault a commencé à faire des petits virages dans la défense. Et donc, à mon sens, c'est pour tester la réaction du marché et l'impact sur la vente d'automobiles auprès du grand public, que Renault devienne un constructeur d'armes, puisque c'est clairement ce qui est en train de se produire, hein, avec la signature de contrats avec Thales, la construction de drones aériens explosifs par Renault. Donc nous, c'est un peu la thématique. La raison pour laquelle on a du Renault en portefeuille, c'est qu'on anticipait. Pour le moment, ça c'est pas encore vu dans le cours, mais on anticipait un virage de Renault potentiel en tant que constructeur au service des militaires. Donc là, vous pouvez avoir une revalorisation considérable pour la bonne et simple raison que la construction d'automobiles, ça vaut rien et que la défense, ça vaut très cher. Donc vous pouvez avoir un très fort rebond sur cette thématique pour Renault. C'est un peu plus engagé. Mmh. Et puis, vous n'avez pas non plus 37 acteurs. Hein. Tout ce qui est numérique, on peut investir dans de l'OVH si on espère que on privilégie un peu le cloud souverain ou du Ionos en Allemagne, si on a une logique plus européenne. Et puis voilà, en espérant que les actionnaires d'Orange ne soient pas trop concurrencés par les solutions de Starlink dans les années qui viennent.
Voilà. Alors, quelques idées. Il y a Lighton aussi, qui alors très spéculatif, qui gagnait 40% hier, ça continue de progresser, plus 18% encore ce soir. Des idées, des valeurs souveraines, Mathieu, de votre côté?
Des valeurs souveraines, je pense qu'il faut rester aussi sur la thématique de l'électrification. Ce qui s'est passé au Moyen-Orient, ça conforte l'idée qu'il faut stabiliser un petit peu nos ressources énergétiques. Et donc ça plaide pour des valeurs comme Schneider, comme Legrand, etc. Aller aujourd'hui à une conférence chez JP Morgan qui a réitéré ses perspectives moyen terme mais aussi long terme, et ça a rassuré beaucoup le marché. Donc c'est pour ça que c'était un des meilleurs performeurs de la journée. Voilà, du Siemens Energy, du Prysmian, tous ces acteurs-là, je pense qu'il faut rester investi sur ces valeurs.
Oui, Legrand, vous faites bien d'en parler, termine plus forte hausse du CAC ce soir à plus 4,5% devant Schneider Electric à plus 2%. Merci messieurs de nous avoir accompagnés, Mathieu Destouches, gérant de fonds actions pour Arkea Asset Management, et Franck Morel, le président de Zone Bourse. Bonne soirée.